Ce qui suit est une production de WebWest Balado. On s'entend là-dessus.
Cet épisode de Jason Éducation fait partie d'une série d'épisodes qui explore la décolonisation de l'éducation et les bienfaits d'intégrer des traditions et des valeurs autochtones dans nos stratégies d'enseignement. Juel Boulay et son invité Joël Tétreau tenteront de mettre en lumière différents thèmes afin de réfléchir aux multiples approches pédagogiques que prônaient les peuples autochtones des Premières Nations dans l'Ouest canadien. Le grand thème de cet épisode, les femmes.
Bonjour, je m'appelle Juel Boulay. Bienvenue à Jason Éducation.
Notre invité, Joël Tétreau.
Bonjour Joël, comment ça va?
Oh, ça va, c'est excellent. Ça va très, très bien.
Donc, l'épisode passé, on a parlé des enfants oui. et leur rôle dans la communauté autochtone oui. ou dans les communautés autochtones. Puis aujourd'hui, on a pensé peut-être parler plus des femmes.
Oui. Une fabuleuse idée parce qu'il n'y a pas d'enfants s'il n'y a pas de femmes en général. Pour moi, je pense une section de la population qui est très négligée ou oubliée puis omise dans la société, en histoire, dans tous les curriculums, dans tous les aspects de la vie, ce sont les femmes. Puis je pense que c'est une des conséquences de la colonisation. Un des grands outils de la colonisation, c'est le patriarcat. C'est convaincre les gens que les hommes sont supérieurs aux femmes, biologiquement, etc. Puis on sait que c'est pas vrai. On sait que les femmes et les hommes sont différents, mais qui ont chacun des attributs. Puis les deux, il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre. Il faut vraiment que je fasse référence parce qu'il y a des choses dont je veux parler aujourd'hui. Puis je vais essayer de vraiment m'assurer que je cite d'où c'est que je prends mes idées, parce que je veux pas vraiment... c'est pas moi qui ai inventé ces idées-là, fait que je vais donner le crédit où ce que le crédit est dû. Alors, il y a un bon balado, puis je le recommande pour tout le monde. C'est à travers de l'émission qui s'appelle Seen on Radio. C'est John Bewin, qui est un documentariste, puis un animateur de radio public. Et son émission s'appelle Seen on Radio, puis il y a plusieurs saisons, puis l'une des saisons s'appelle Men. Puis, justement, il parle de ça. Il parle de plusieurs sujets, entre autres la toxicité masculine. Il parle de comment on a socialisé les garçons à reproduire certains mythes et de croire certains mythes. Puis, tu sais, je lisais dans la presse aujourd'hui, il y avait une série de 3 articles sur Andrew Tate, puis un influenceur qui influence énormément les jeunes garçons adolescents. Fait qu'en partie, j'essaie de faire cette émission-là pour mon fils aussi, qui a 15 ans, puis c'est très difficile pour être garçon. Moi, je peux juste être garçon, c'est difficile, puis j'essaie pas de pleurer les garçons, mais c'est un des grands... les grands mythes de la colonisation, ça met beaucoup de pression sur les garçons dès quelque chose qu'ils ne sont pas du tout. Ou de, ils n'ont pas le droit de faire... Alors, on est socialisé dès un jeune âge de ne pas vouloir être une femme. Tu sais, je veux dire? Puis je pense qu'aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est faire hommage aux femmes pour que les garçons, surtout les garçons, surtout les adolescents, et leurs parents réalisent que, tu sais... les effets négatifs de cette toxicité masculine. Puis ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est un effet de la colonisation. Alors, aujourd'hui, je veux faire un hommage aux femmes, dans le sens que je veux aussi m'assurer que les gens remettent les pendules à l'heure quand ça vient aux femmes puis leur influence dans notre société, surtout la société précoloniale, parce que les femmes jouent un rôle essentiel. Puis je pense que c'est pour ça que c'est une des raisons pourquoi que les premières cibles de la colonisation, ce sont les femmes. D'abord et avant tout.
Alors, pourrais-tu faire peut-être un retour dans le temps plus traditionnel, oui. comment les femmes étaient dans leur communauté?
Oui. Bien, je vais commencer aux histoires de création. Tous les peuples autochtones, tous les peuples des Premières Nations ont leurs histoires de création. Puis la grande majorité d'entre elles ont des femmes au centre de ces histoires-là. Les Haudenosaunee à l'est vont parler de Sky Woman. Les Ininawak et les Nehewak vont parler aussi d'une femme des étoiles. Sur la côte ouest aussi, les femmes sont... Puis la première femme, c'est la terre. dans plusieurs de ces, dans la plupart de ces histoires de création là, parce que la terre, le premier traité, c'est avec la terre, puis c'est la mer, parce que la mer fournit tout ce qu'on a besoin pour vivre. Alors d'abord et avant tout, la femme la plus importante, c'est effectivement la terre. Alors à chaque fois, tu sais, si on regarde, puis on avance dans le temps, à chaque fois qu'on prend quelque chose de la terre, on est après blessé, on est après la femme, la terre-mère se sacrifie pour nous. Alors, la première chose qu'on doit toujours réaliser, c'est que les femmes sont vraiment, comment je pourrais dire, la toile de fond de tout, de ce qu'on connaît pour les Premières Nations. Alors, le premier traité, c'est avec la terre-mère, puis notre premier traité comme enfant, c'est avec notre mère. Notre mère nous porte pendant 9 mois. C'est elle qui nous donne naissance. On baigne dans l'eau sacrée. Et lorsqu'elle donne naissance, vraiment, c'est ça, on concrétise ce traité-là avec notre mère. Notre mère nous promet de nous éduquer, de nous protéger, de tout faire pour s'assurer que cet enfant-là, qu'on garde, on a parlé un peu de la lumière. Un enfant, c'est une lumière. La mère, sa grande responsabilité, c'est garder cette lumière-là ouverte et, je veux dire, allumée. Alors, l'autre chose aussi, c'est que parce que la mère... Parce que l'enfant baigne dans l'eau sacrée, dans le ventre de la mère, les femmes, naturellement et par responsabilité, sont responsables de protéger l'eau aussi. Alors, lorsqu'on regarde des manifestations aujourd'hui, puis ça, c'est quelque chose qui se perpétue là, avec les générations en génération. Lorsqu'on voit les manifestations pour protéger l'eau, si on regarde à Standing Rock, si on regarde à d'autres manifestations, c'est toujours les femmes qui sont à l'avant-garde. Parce que non seulement que c'est pas un choix pour les femmes, leur rôle, leur responsabilité numéro un, c'est s'assurer que les enfants, on respecte les enfants, mais aussi qu'on protège l'eau. Parce que sans l'eau,
on n'a rien.
Alors, les femmes sont... Alors, c'est ça, les cérémonies qui ont rapport à l'eau, c'est pour ça que c'est les femmes qui font les cérémonies d'eau.
Ça a beaucoup de sens.
Oui, parce que c'est ça. C'est eux qui ont le créateur ou la créatrice ou les ont mandatés d'avoir cette eau sacrée-là. Puis ça, c'est des enseignements, comme je n'ai pas inventé ça, c'est dans les histoires de création. Puis aussi mes aînés, comme Wilford Buck, qui en parle dans ses histoires de création, qui est un aîné, Inanoak, mon aîné. Lionel Mason aussi parle de ça. J'ai appris ça aussi de ma soeur, Bobby Jo Leclerc. Ça, c'est toutes des choses qui... c'est de là que je prends ces enseignements-là. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais on le voit, tu sais, il y a des choses, des fois, on réalise pas. Comme par exemple, je prends la crise d'Oka. J'aime ça aller du passé au présent. Mais si on regarde la crise d'Oka, oui, on parle souvent des Warriors puis l'armée canadienne, mais les personnes qui sont centrales à cette histoire-là, ce sont les femmes comme Hélène Gabriel. Hélène Gabriel, les femmes Haudenosaunee, c'est les femmes qui font les grandes décisions politiques. C'est eux qui choisissent les chefs de guerre, c'est eux qui choisissent les chefs politiques. Il n'y a rien qui est acceptable dans la société sans que les femmes l'approuvent. Alors, Hélène Gabriel, si jamais vous allez voir le film de Alanis Obopswin, encore une femme, encore, qui raconte les histoires. Sans elle, on ne connaîtrait pas cette histoire-là, mais... Hélène Gabriel, c'est elle qui négocie avec le gouvernement. C'est elle qui est porte-parole de la communauté. C'est elle qui parle au nom de la communauté. Parce que les personnes qui sont le plus affectées par les guerres ou par les problèmes, ce sont les femmes et par conséquent, c'est les enfants. Alors, quand on allait à la guerre, les temps précoloniaux, lorsqu'une communauté décidait, parce que c'était par consensus en général, c'est les femmes qui décidaient si on allait en guerre. Est-ce que ça valait la peine d'aller en guerre? Parce que non seulement est-ce que ça va affecter leur mari, leur époux, leurs oncles, leurs tantes, leurs pères, leurs grands-pères, à cause c'est eux qui vont aller en guerre. Et aussi, il y a des femmes aussi qui étaient guerrières aussi, mais ça va affecter les enfants. Alors, c'est les femmes qui décidaient ultimement. Comment longtemps qu'on se battait dans cette guerre-là, si on allait en guerre ou si on allait en négociation de traité?
J'essaie juste d'imaginer notre monde, si ça, c'est comment on décidait d'aller en guerre ou non.
Mm-hmm.
Comme il y a plusieurs guerres qui sont en train de se dérouler en ce moment. Et je me demande si elles auraient eu lieu, si c'était les femmes qui ont eu la prise de décision.
Puis la grande raison pourquoi que les femmes n'ont pas un grand mot à dire, c'est cette idée de colonisation. Dans la colonisation, puis on parle, il y a des systèmes, des outils que la colonisation utilise pour dominer. L'une, c'est évidemment la violence, le racisme pour diviser les gens. Tu as des divisions économiques. Système capitaliste, c'est bon à diviser les gens dans des classes sociales, mais tu as aussi le patriarcat. Convaincre les gens que les hommes sont supérieurs aux femmes, que les femmes sont trop émotives pour être des chefs, que les femmes vont être pas capables de prendre des décisions difficiles. Mais si tu regardes la perspective autochtone, c'est complètement l'opposé.
Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu parles de plusieurs peuples différents. Oui. Qui ont tous des histoires de création qui mm-hmm. mettent vraiment la femme comme devant tout. Ça, c'est vraiment intéressant comment ils ont un peu évolué comme de manière pareille.
Puis regardons l'histoire de création qui vient de l'Europe. C'est surtout l'histoire de création de Adam et Ève. Qui, premièrement, la femme, c'est elle qui a causé les problèmes parce que c'est elle qui a tenté Adam. Alors, déjà, on voit que la femme est plus faible que l'homme et n'est pas capable de résister. Et l'autre chose, puis à cause de ça, on voit la naissance comme étant une punition dès le début, puis que tous les enfants sont nés avec un péché mortel. Et on banalise, puis on met du tabou sur la sexualité, puis sur le corps de la femme dès le début. Les hommes ont le droit de galvauder, tandis que les femmes doivent rester pures, puis on doit garder cette pureté-là pour toujours. Et ces femmes-là, les femmes doivent faire ça, s'ils veulent être des bonnes femmes. Et s'ils veulent garder un peu d'influence, ils doivent écouter à l'homme. Mm-hmm. Tu sais, c'est dans le mot en anglais, c'est « bride and groom ». Sais-tu qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi une bride? C'est quoi une bride?
Bien, comment on parle des chevaux.
Ouais. Une bride, c'est tu mets ça pour contrôler le cheval, « bride ». Groom, ça, c'est quand t'élèves des animaux. Grooming. Tu groomes, tu t'entraînes. Tu entraînes ton cheval. Bride, groom.
Wow.
C'est dans le mot, c'est dans les mots, c'est dans le lexique qu'on ne sait même pas.
Wow, je suis choquée. Je ne suis pas surprise dans le sens que j'aurais dû le savoir, que ces mots-là seraient en lien avec le patriarcat.
Oui.
Mais wow, je n'avais jamais fait ce lien-là.
Puis toute cette idée d'un mariage aussi, ça, c'est un... Je veux dire, je veux pas parler contre le mariage. Moi, ça fait 21 ans. Enfin, je veux pas être hypocrite. Ça fait 21 ans que je suis marié, puis je suis très heureux dans ça. Mais à l'origine, le mariage, c'est pas un contrat entre l'homme et la femme.
Mm-hmm.
C'est entre le père de la mariée et le marié. C'est un transfert de propriété. Le père transfère la propriété de sa fille à un homme. En retour, il y a une dot à payer aussi, parce que le père de la mariée, parce qu'il n'a plus besoin de prendre soin de sa fille, doit transférer des fonds au marié pour qu'il puisse en prendre soin. Fait que c'est comme il paye l'homme pour prendre sa fille.
Mm-hmm.
Mais là, ça devient une transaction financière. Le mariage, ce n'est pas une transaction morale ou d'éthique ou religieuse. D'abord et avant tout, c'est un transfert de propriété, puis c'est un contrat légal et économique, d'abord et avant tout. Bon, si tu regardes, puis on va retourner un peu aux perspectives, les perspectives autochtones. En général, les femmes choisissent leur partenaire. Ça n'a rien à faire avec le père ou la mère ou leurs besoins. En général, c'est très... La femme peut choisir plus qu'un partenaire, si elle veut. Si son partenaire... fait pas l'affaire. Tout ce qu'elle a besoin de faire, puis ça c'est une histoire que j'ai reçue de Bob et Joe. Dans les communautés Nahéwak, les cris des plaines, tout ce qu'une femme avait besoin de faire pour dire à son partenaire qu'elle voulait plus l'avoir, elle prenait tous ses biens, puis elle les mettait en dehors du tipi, puis ça veut dire que c'est fini, c'est fait. Si une femme voulait prendre un autre mari, bon, ou un autre partenaire, parce qu'il n'y a pas vraiment... Dans la plupart, il n'y a pas de cérémonie formelle. T'sais, on est ensemble, on est conjoint-conjointe. Mais si on va dire qu'une femme trouve un autre conjoint qu'elle préfère, le nouveau conjoint, dans certaines circonstances, va transférer un peu de sa propriété à l'autre conjoint. Puis là, c'est fini. Le divorce est fait.
Mm.
Même Champlain, il va voir ce qu'on appelle une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de l'allumette. Où ce que, puis il va être choqué par ça, parce que Champlain est un... Tu sais, il y a des rumeurs qu'il était protestant, très pur et puritain, on pourrait dire. Mais il a observé ça dans une communauté inue, où ce que toutes les femmes avaient une chandelle ou une allumette, puis les hommes devaient se dérober complètement, puis ils passaient, puis lorsque une femme voyait un homme qu'elle trouvait de son goût, elle soufflait l'allumette, puis ça, elle choisissait son conjoint. Mais c'est la femme qui choisissait son conjoint, c'est pas l'autre côté. Fait que c'est les femmes aussi étaient des, comme j'ai mentionné pour les Haudenosaunee, sont des chefs, ils vont souvent, les mères ont une grande influence sur qui leurs filles vont marier, etc. Alors, il y a beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de pouvoir pour les femmes dans la grande majorité des peuples autochtones, avant l'arrivée des Européens. Bon, lorsque les missionnaires vont arriver, ils vont être choqués par ça. Puis je suis convaincu, puis il y a plusieurs anthropologues qui vont le dire aussi, ils sont convaincus que ça, c'est une grande menace. Parce que une toile de fond du christianisme, c'est l'idée que le mari représente Dieu dans la famille, puis c'est lui qui doit bosser, puis c'est lui qui fait les décisions, parce qu'il représente, comme on a dit, Dieu dans sa famille. C'est pas du tout le même dans les communautés autochtones. Alors, pour garder ce mythe-là en vie, les missionnaires vont essayer d'inculquer cette notion que l'homme est naturellement supérieur.
Question pour toi. Alors, si, disons, une femme choisit un homme et l'homme n'a pas envie d'être son partenaire, qu'est-ce qui arrivait?
Ah, il y a un choix aussi.
Alors, c'est vraiment le choix des deux personnes.
C'est pas une question. On va dire que la sexualité n'était pas tabou pour la grande majorité. Le corps de la femme n'était pas tabou. Les femmes étaient régulièrement découvertes à travailler dans les champs à seins nus. C'était vraiment pas, il n'y avait pas de tabou de ça du tout. C'est pour ça que si tu lis les relations des missionnaires, là, c'est un choc là, complètement. Là.
Pour eux, c'est le scandale.
C'est scandale, parce qu'il y a aussi cette notion-là de liberté sexuelle aussi. Une femme autochtone était complètement libre de choisir plusieurs partenaires si elle voulait. T'sais, puis ça, c'est complètement l'opposé de nos mœurs, les mœurs européennes.
Oui, leur liberté est une menace.
Oui. Puis on voit l'influence de la colonisation. Parce que la raison pourquoi j'ai dit non, c'est que ces valeurs chrétiennes-là, elles sont répandues dans toutes les communautés, la grande majorité des communautés autochtones. Je veux dire, c'est une des choses qu'on enseignait dans les pensionnats autochtones. Tu sais? Alors, cette hiérarchie-là, l'homme et la femme, ça, c'est quelque chose qui est complètement colonisatrice. Comme les femmes, très libre de choisir qu'est-ce qu'il voulait faire, comment il voulait le faire, avec qui il voulait le faire pour des milliers d'années.
J'ai même entendu que, en plus de ça, une femme enceinte était traitée comme étant super importante. Mm-hmm. Puis je peux pas nommer ma source parce que oui. C'est juste quelque chose à mon cerveau. Oui. Mais puis aussi, on ne se chicanait pas autour d'une femme enceinte, parce qu'on voulait vraiment la protéger, puis protéger la vie en elle.
Oui. Bien, comme je le mentionne souvent, parce que c'est une grande influence de ma vie, Bobby Joe Leclerc m'a dit que dans la langue Nehewak, Neheyu, il n'y a aucun mot pour abus. Puis les aînés disent, s'il n'y a pas un mot pour abus, ça veut dire qu'il n'y avait pas. Alors, imaginez-vous, tu sais, puis c'est pour ça que des fois, les enfants ont beaucoup de misère à parler à leurs parents lorsqu'ils venaient des pensionnats autochtones. Premièrement, il n'y avait pas de mot pour abus. Ça, c'est la première chose. Alors, si tu n'as pas de mot pour abus, comment tu vas expliquer qu'est-ce qui est arrivé? L'autre chose, c'était inconcevable que des adultes fassent ça à des enfants. Les parents, leur rôle, c'était de prendre soin des enfants, garder cette lumière allumée. Alors, tu gardes pas une lumière allumée en battant un enfant ou en disciplinant de façon physique. Je veux dire, alors, c'est un peu ça, tu sais. Alors, les femmes sont très importantes, mais rapidement, avec la colonisation, les premiers cibles de la colonisation, ce sont les femmes. Christophe Colomb, tu sais, il y en a beaucoup qui font des grands projets d'explorateurs dans leur classe, passe du temps, on va étudier les explorateurs. Moi, je les appelle des exploiteurs parce que il y avait trois buts, ces gens-là. C'était trouver des esclaves, parce que c'était financièrement, c'était très avantageux. Trouver de l'or et trouver un passage vers l'Asie. Ça, c'est les trois grands buts des exploiteurs. Lorsque Christophe Colomb arrive à Hispaniola, qui est aujourd'hui tu sais, la République dominicaine et l'Haïti, il arrive là où dans cette région-là. Il arrive là, il fait deux choses. La première chose, il débarque de son bateau, crée des relations avec le peuple autochtone, puis le nom m'échappe du peuple des Premières Nations qui vivaient là, puis je ne veux pas me tromper, alors je ne vais pas essayer de le dire, mais il va faire la première chose, faire des relations. La deuxième chose qu'il va faire, c'est qu'il va kidnapper des femmes, il va les rapporter à ses bateaux, puis il va les offrir en cadeau à ses marins. Alors, le premier acte de colonisation, c'est le viol de femmes. Alors, quand tu violes quelqu'un, c'est la déhumanisation. Alors, dès le début, le but des colonisateurs, c'est de déhumaniser les femmes. Parce que si tu veux justifier des actes qui sont injustifiables, tu déhumanises.
Parce que la seule raison que tu peux justifier ça, c'est que si ces personnes ne sont pas des personnes.
Exactement. Alors, rapidement, il y a cette stratégie de déhumaniser les femmes, puis on voit les résultats aujourd'hui. T'sais, on a trois femmes qui sont présumées enterrées dans deux dépotoirs à Winnipeg. Rebecca Comtois, je voulais me rappeler de leur nom en arrivant ici, puis je les ai répétés des douzaines de fois. Mais Rebecca Comtois, puis là...
Sa fille s'appelle Mercedes.
Il y a Mercedes, mais il y en a une autre aussi. Morgan Harris. Alors, Morgan Harris, Rebecca Comtois et Buffalo Lady, ou Buffalo Woman, sont enterrés dans l'un des deux dépotoirs. Combien de gens penses-tu qu'ils pourraient nommer leur nom à Winnipeg?
Ben,
moi j'ai eu la misère, puis moi, je suis... Tu sais, je lis ça, je vis ça, je mange ça. Je m'éduque constamment sur ça. Puis j'avais la misère à nommer ces trois femmes-là. Mais si tu demandes à la plupart des adultes qui ont plus que 30, 40 ans à Winnipeg, puis tu leur demandes, c'est qui Thelma Kroll? C'est une femme de 56 ans qui a disparu il y a 12 ans. C'est une femme blanche. Tu mentionnes, on fait de l'activité dans les écoles. On fait une activité qui s'appelle Circle in the Box, puis ou le cercle au carré. Puis on demande à... Puis la plupart des enseignants sont dit, est-ce que vous savez c'est qui Thelma Kroll? Ça fait au moins 10 ans que c'est arrivé. Tout le monde lève la main, ils savent exactement c'est qui. Femme blanche, 56 ans, disparue. Puis là, on leur demande, est-ce que vous pouvez nommer les trois femmes qui sont présentement enterrées dans les dépotoirs à Winnipeg? Personne qui peut nommer une de ces femmes-là. Alors, mais ça, c'est pas leur... Mais je veux dire, je veux pas dire que c'est pas leur... Non, je ne veux pas blâmer personne, mais c'est juste une preuve de cette déhumanisation-là. C'est ça. Alors ça, c'est un outil de la colonisation, c'est déhumaniser les femmes. Parce que si tu peux déhumaniser les femmes, si tu peux cibler les femmes, si tu peux tuer les femmes ne peuvent pas donner naissance. C'est comme ça qu'on fait des génocides. De n'importe quelle façon, on essaie d'empêcher la reproduction, on essaie d'empêcher l'augmentation de la population de cette culture-là ou de ce peuple-là ou ces peuples-là. Alors, c'est pour ça que les colonisateurs vont cibler les femmes dès le début.
Est-ce que penses-tu que c'était comme un choix intentionnel ou c'était juste comme tellement juste une partie de leur vécu que c'était juste naturel de le faire? Ou est-ce qu'ils sont allés là, ben, on sait qu'ils voulaient trouver l'Asie, oui. Mais comme... Oui, est-ce que c'était un choix intentionnel?
Ça, c'est une bonne question. Je peux pas me mettre dans les souliers de ces bottes de ces gens-là, mais je sais que ce qu'ils voulaient reproduire, c'est ce qu'il y avait en Europe à ce moment-là. Puis ce qu'on veut, parce que le but de la colonisation, c'est de recréer la société d'où on vient. Alors, je pense que si tu veux recréer ton pays européen en Amérique du Nord, il va falloir que tu reproduis ces attitudes et ces mythes-là au sujet des femmes. L'autre chose, c'est que souvent, les butins de guerre pour les armées européennes à ce moment-là, ou les armées romaines ou grecques ou n'importe quel autre pays qui ont colonisé dans l'histoire de l'Europe, un des plus grands butins, ce sont les femmes. On les voit comme des objets. Alors, c'est dans les lois, alors on veut reproduire. On reproduit, veut pas, intentionnellement ou explicitement ou implicitement, on a reproduit ces attitudes-là et ces lois-là ici en Amérique du Nord. Mais je pense, pour, si tu lis les relations des Jésuites, des missionnaires qui sont venus, eux, c'est très clair ce qu'ils veulent changer, ces sociétés-là, puis le rôle des femmes, c'est vraiment évident pour eux qu'ils doivent vraiment changer les attitudes par rapport à la sexualité et aussi par rapport à cette égalité ou cette équité entre les hommes et les femmes.
Alors, de mettre les menottes invisibles.
C'est ça. Puis aussi, tu sais, c'est s'assurer que... puis ils disent s'assurer que les hommes prennent leur place. Puis on voit ça encore aujourd'hui. On voit ça dans plusieurs secteurs, que les hommes prennent leur... OK, par exemple, si on regarde dans le système d'éducation, on regarde une école élémentaire typique. Quel serait le... toi, tu pourras me le mentionner plus que moi. Quel est le pourcentage de femmes... ou quel pourcentage d'enseignants qui sont des femmes à l'élémentaire?
Bien, pour nous, à notre école, c'est 100%.
OK. Puis l'administration?
C'est un homme.
OK. Est-ce que tu penses que c'est la majorité des écoles qui sont comme ça, élémentaires?
Ou malheureusement que oui.
Oui. Alors, encore, tu as cette marginalité.
Ah, 100% peut-être.
Mais pas 100%.
Mais non, mais pourcentage
ça change
très élevé.
Lentement, ça change. Mais encore. Encore en 2023, on voit cette reproduction-là de la supposée supériorité de l'homme. L'homme est capable de faire des décisions gestionnaires. Les femmes sont trop émotives, sont pas vraiment capables d'être des bonnes gestionnaires. Mais puis tu le vois aussi dans l'attitude des femmes quand ils appellent. Puis ça, c'est dans toutes sortes de livres. Puis je veux dire, plusieurs personnes qui ont fait des études sur ça, mais les femmes, quand ils vont postuler pour des postes d'administration en éducation, vont se questionner, est-ce que je suis assez bonne? Est-ce que je suis capable de faire ça?
J'ai l'expérience nécessaire.
Ils vont penser à leurs enfants, s'ils en ont. Ils vont penser, est-ce que je suis capable de balancer toutes ces choses-là? C'est rare que les hommes se posent les mêmes questions. Ils vont dire, je suis capable, puis je le fais. Même si souvent, ils ont moins de qualifications, puis ils ont moins de, je dirais, moins de qualité que les femmes. Alors, c'est cette confiance que le patriarcat apporte. Naturellement, dans notre société, on a le mythe que les hommes, naturellement, sont supérieurs. Alors, ils devraient pas se douter. Puis si tu doutes, ou si tu... si tu montres des émotions qu'on dit, des émotions de femme, ben là, t'es réduit à être... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, on voulait m'insulter. On disait, ah, t'es comme une fille. Ou tu joues comme une fille.
Tu lances comme une fille. Tu...
Comme si que c'est négatif, tu sais. Alors, ça, c'est un des effets. Mais si on regarde vraiment à la base, là, dans les communautés autochtones, ça n'aurait pas été quelque chose dont on aurait même songé avant l'arrivée des colons. Les femmes étaient aussi bonnes, les femmes faisaient des décisions, les femmes étaient, dans la majorité des communautés, des chefs de file. Il n'y a rien qui se passait si les femmes n'acceptaient pas.
Et comme tu as dit, comme les communautés étaient très comme en santé, si on pourrait le dire comme ça, comme il n'y avait pas d'abus.
Pas d'abus. L'eau était propre parce que les femmes protégeaient l'eau. On respectait la terre. Parce que notre premier traité, c'est avec notre première mère, qui est la terre. L'histoire de création met de l'avant des femmes fortes, des femmes curieuses, comme la femme des étoiles. Elle est curieuse. C'est pour ça qu'elle... Je ne veux pas trop rentrer dans l'histoire de création parce que je ne la connais pas, puis je veux pas lui faire déshonneur. Mais la femme des étoiles, une des raisons pourquoi elle veut venir sur Terre, c'est qu'elle est curieuse, puis elle voit un trou, puis elle voit à travers, puis elle a le courage et la curiosité de regarder à travers, puis elle veut aller là. Alors, cette curiosité-là est vue comme étant positive, tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, il y a juste n'y a pas beaucoup de pas beaucoup de vision négative par rapport aux femmes dans toutes ces histoires de création là dans je veux pas faire tomber dans l'autre mythe où ce que c'était parfait ici avant l'arrivée des Européens. C'est certain qu'il y avait des guerres, c'est certain qu'il y avait des des dilemmes, des défis, etc. C'est certain. Mais à la base, ces défis-là étaient vécus de façon équitable entre les hommes et les femmes.
Et là, comme, quand je pense au traité, je pense au médaillon mm-hmm. entre l'homme blanc et mm-hmm. l'homme autochtone qui oui. serre la main.
Oui.
Mais est-ce que c'est parce que les colonisateurs ont demandé que ce soit des hommes qui fassent les traités avec eux parce qu'ils n'auraient pas accepté?
On n'aurait pas accepté de négocier avec des femmes. Tu sais, lorsque... Avant l'arrivée des Européens, puis même pendant la négociation de traité avec les Européens, on apporte des femmes et des enfants. La politique, c'est une affaire de toute la communauté. C'est une affaire familiale parce que le traité va affecter toutes les familles et puis toute la communauté, pas juste les hommes. Alors, les Européens, des fois, ils étaient comme...
Qu'est-ce qu'ils font là?
Puis, à l'inverse aussi, lorsqu'ils ont négocié, lorsque les Anglais sont venus sur la côte est de ce qu'aujourd'hui les États-Unis, puis ont rencontré les Wampanoag. Tu sais, on parle de Thanksgiving, Thanksgiving américain qui est la troisième jeudi du mois de novembre en général, je pense. Oui, troisième jeudi du mois de novembre. Ça célèbre, tu sais, cette relation-là entre les Autochtones, les peuples des Premières Nations et les premiers colons américains. Mais ce que c'est vraiment Thanksgiving, c'est que les Anglais crevaient de faim au mois de novembre et les Premières Nations ont apporté assez de manger pour la communauté anglaise ou des colons pour qu'ils puissent survivre l'hiver. C'est en guise de remerciement, parce que sinon, ils seraient tous morts. À vrai dire, ils décédaient à des pourcentages incroyables, les Pilgrims, comme on les appelle. Alors, ça, c'était les Wampanoag. Alors, c'est vraiment le premier Thanksgiving qu'on enregistre. C'est entre les Wampanoag, qui est un peuple qui fait partie de l'Alliance ou la Confédération des... Ça va me revenir plus tard, là, mais en tout cas, ils faisaient partie de cette confédération-là, puis ils ont négocié un traité avec les Pilgrims. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les Pilgrims ne savaient pas pourquoi que les Wampanoag avaient apporté leurs enfants et les femmes à la négociation de ce traité-là. Puis les Premières Nations ne savaient pas pourquoi que les Pilgrims n'avaient pas apporté les femmes et les enfants.
Oui, oui.
Parce que c'est une affaire communautaire, un traité, parce que ça affecte tout le monde. Alors, tu vois déjà cette distinction entre les deux visions. Alors, c'est ça, parce que vraiment, puis tu sais, c'est juste, si on regarde à notre système politique actuel, c'est juste maintenant que les femmes commencent à vraiment avoir un pourcentage, dans les 20-24%, je pense, qui sont de femmes dans je pense, la législature, pas la législature, mais dans la Chambre des communes à Ottawa. C'est juste maintenant, en 2023, que les femmes commencent à vraiment prendre leur place, qu'elles auraient dû toujours avoir.
Et les femmes qui sont politiciennes font face à des atrocités du peuple canadien, comme auxquelles les hommes ne font jamais face.
C'est ça. Si on regarderait notre économie sous une perspective Première Nation, nos priorités sont vraiment, comment on pourrait dire, sont vraiment mal placées. Parce que vraiment, si tu regardais sous une perspective autochtone, premièrement, la première priorité, c'est de s'assurer que les femmes et les enfants, on prend soin d'eux. Mais là, il y a des gens qui attendent 24 mois pour avoir une garderie. On diminue constamment le financement des écoles publiques. Quand les services de santé, on coupe dans ça, surtout, puis ça affecte beaucoup plus les femmes et les enfants, lorsqu'on coupe dans la santé. Alors, la minute qu'on doit couper quelque chose, où est-ce qu'on coupe? On coupe dans les services qui affectent les femmes et les enfants. Ça serait inacceptable dans une communauté des Premières Nations. Inacceptable. C'est eux qu'on doit... Parce que si tu n'as pas de femme et tu n'as pas d'enfant, tu peux pas continuer. Mais c'est ça. C'est ça qui arrive quand une société et les règlements sont faits presque uniquement par des hommes, pour des hommes. Puis malheureusement, c'est ça qu'on... ça change, ça a changé, mais je veux dire, les femmes ont eu le droit de vote, quoi? Les femmes blanches ont eu le droit de vote en 1916 au Manitoba. Les femmes autochtones, pas avant 1960. Alors, tu sais, il y a du rattrapage à faire.
Et le changement est long.
Puis difficile, parce que, tu sais, n'importe quand que... Ça fait peur à plusieurs hommes, cette idée-là, que les femmes prennent leur place, qu'elles auraient toujours avoir cette place-là. Mais ça fait peur. Puis c'est ça qu'on voit aussi, tu sais. Ça, c'est une des raisons pourquoi on voit beaucoup de toxicité masculine. C'est parce que, tu sais, quand les gens ont peur, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils réagissent avec violence ou avec violence, surtout.
Alors, on a dit que, comme... Depuis la création, depuis les... Je ne sais pas si c'est mythe de création. Est-ce que
Non, on ne va pas être... Voilà. Non, mais c'est bien que tu le mentionnes parce que souvent, on les enseigne, on dit des mythes, des légendes. Puis pour les gens des Premières Nations, ça, c'est péjoratif parce que pour eux, c'est des histoires qui racontent leur création. Puis c'est des histoires dans lesquelles ils croient fermement. C'est ça qui... C'est... OK. Tu vas parler avec un aîné, puis il va dire, c'est peut-être pas arrivé exactement comme ça dit dans l'histoire, mais il y a des événements qui sont réels là, là-dedans. C'est juste que les gens n'avaient pas les mots pour l'expliquer à ce moment-là. Mais on transmet ces histoires-là de génération en génération. Vraiment, ce qu'on veut en ressortir aujourd'hui, c'est les leçons qu'on peut en tirer. Comme la grande leçon de la Terre-Mère, c'est qu'on doit respecter la Terre. Si on ne la respecte pas, elle ne va pas pouvoir fournir ce qu'on a besoin pour vivre. Si les autres histoires de création, est-ce qu'on doit respecter la femme puis qu'elle est la protectrice de l'eau? Bien, je veux dire, si on n'écoute pas les femmes puis on ne se laisse pas guider par les femmes, l'environnement puis la terre va souffrir, puis on le voit. Alors, c'est pour ça qu'il appelle ça des histoires de création. Parce que
Histoire, c'est le mot.
Puis ces histoires-là, il y avait quelqu'un dans la communauté qui était responsable de l'apprendre par cœur. Fait, l'histoire de création que tu vas entendre aujourd'hui, les vraies histoires de création qui sont racontées par la personne qui est spécifiquement choisie dans la communauté parce qu'ils ont ce don-là, comme on a parlé un peu de, tu sais, chaque enfant a un don. Quand ils vont à ce don-là, les aînés qui ont cette histoire-là vont la partager avec ce jeune-là dès un jeune âge, puis ils vont la prendre par cœur, mot pour mot, puis ils vont la transmettre de génération en génération. Bon, plusieurs de ces histoires de création-là vont être perdues en cause, puis c'était spécifiquement... Faites pour ça, les pensionnats autochtones, on brise le lien entre la communauté, les enfants, entre les parents, les grands-parents, les oncles. Alors, ces histoires-là ne peuvent plus être transmises. Alors, si tu regardes la conséquence de ça, c'est que tu as des choses essentielles à l'éducation d'un humain pour comment devenir une bonne personne sont complètement coupées, là. Alors, quand on parle de pensionnats autochtones, on parle souvent de l'abus, on parle souvent de l'abus sexuel, physique, on parle de que c'est pas des bonnes places, les jeunes décédaient. Mais non seulement ça, mais des traditions, des systèmes d'éducation, des bibliothèques de connaissances ont été brûlées, c'est une métaphore, là, mais avec ces pensionnats-là. Parce que les enfants revenaient. Puis ça, c'est une autre chose. C'est que la langue est tellement importante pour transmettre ces histoires-là. Parce que tu peux pas vraiment... Tu peux traduire les histoires, mais traduire, c'est trahir. Imagine-toi que tu essaies de traduire une langue des Premières Nations à une langue européenne. Tu perds... Il y a un aîné qui me dit que tu perds 80-85% de tu symbolises, puis de qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire, cette histoire-là.
Wow, ça, c'est énorme. Si tu penses que déjà, il y a tellement de personnes qui n'ont pas pu transmettre de toute façon. Mm-hmm. Et là, même les histoires qui ont été transmises, on a seulement pu comme conserver 15%. Ben...
C'est énorme. C'est énorme. Imagine-toi si on perdait 85% de nos connaissances qu'on a mis sur Internet du jour au lendemain.
Le monde capoterait.
Ça serait un désastre. Fait qu'imagine-toi, applique ça aux Premières Nations, pour aux communautés des Premières Nations.
Oui, et malheureusement, j'ai jamais fait ce lien-là. Et wow, comme c'est vraiment quelque chose.
Mm-hmm. Fait que tout le monde travaille ensemble dans une communauté des Premières Nations pour s'assurer que, tu sais, ses traditions, ses histoires, ses façons de voir le monde sont transmises. Puis les femmes jouent un rôle essentiel dans ce système-là, dans ce système d'éducation-là. Alors,
est-ce qu'elle aussi était conteuse? Comme...
Absolument. Les femmes et les hommes. Il y avait des rôles qui étaient peut-être pas prédéterminés, mais il y a des rôles qui étaient peut-être mieux à certains aspects physiques de l'homme et la femme. Mais si une femme était une bonne guerrière, elle était guerrière. Il y a des femmes qui se battaient dans les guerres. Il y a des hommes qui étaient guérisseurs. Alors, il n'y a pas cette distinction autant que dans les communautés colonisatrices, c'est certain. Le rôle des sexes est vraiment moins défini, on pourrait dire.
Alors oui, parce que quand mes élèves lisent des livres sur un peuple autochtone, ça dit les femmes cueillaient les baies, mm-hmm. elles faisaient la cuisson, elles préparaient les vêtements et tout, mais c'est pas tout à fait ça.
Je dirais que la majorité des femmes auraient fait ça, mais c'était pas nécessaire, c'est qu'ils choisissent, comme, c'est pas comme forcé, c'est pas comme l'homme, comme, on n'enseigne pas que tu devais faire ça.
OK.
C'était naturel. Il y avait, comme, par exemple, chez les Haudenosaunee, c'est les femmes qui étaient les agricultrices. Parce qu'ils étaient plus proches de la terre, ils connaissaient la terre. Parce que la terre, c'est une femme. Alors, ils la connaissaient. Fait que c'est eux qui étaient responsables de prendre soin des champs de maïs, haricots, les trois sœurs, maïs, haricots et courges. C'est eux, puis c'est eux qui disaient aux hommes quoi faire. OK, tu vas cercler là, tu vas les prendre. Aller chasser là, pendant qu'on puisse faire la vraie job, la vraie besogne. Tu sais? Parce que, puis, tu sais, ça se montre dans la façon qu'ils définissaient leur société aussi. Les Haudenosaunee, c'est une société matriarcale ou matrilinéaire, où ce que tout. Quand l'homme prenait une femme ou la femme prenait un homme, l'homme allait vivre avec la famille de la femme. Et tous les biens sont passés en travers de la lignée de la femme. Alors, ça, c'est quelque chose qui était comme, quand les missionnaires sont arrivés, c'est comme, hey, ça, on peut pas. T'sais, soit on doit cacher ça, on doit changer ça au plus sacré. Parce que s'il y a des femmes européennes qui voient ça, qu'est-ce qui pourrait arriver? T'sais, ils vont commencer à réclamer des droits qu'on ne veut pas leur donner. Hein? Absolument. Absolument. Ben, parce que, tu sais, ça va peut-être un sujet un peu touchy, là, mais les personnes probablement qui ont eu, après les hommes, qui ont eu la plus grande influence sur la transmission de ce mythe-là, de la supériorité des hommes, ce sont les femmes blanches. Parce qu'on fait ça dans notre activité du cercle au carré, on refait la hiérarchisation de la société. Tu as les hommes blancs hétérosexuels, chrétiens, cisgenres, etc., vont être en avant. Mais les personnes qui vont être en arrière, ce sont leurs femmes.
Alors, même avant les hommes autochtones.
Les autochtones sont en arrière. Tu vas avoir à peu près 7 rangées avant que tu arrives aux autochtones. C'est que ces femmes-là savent que s'ils n'écoutent pas à ces hommes-là, ils vont perdre leur place dans cette hiérarchie-là. Mm-hmm. Si on regarde la ségrégation aux États-Unis, si on regarde à tous les systèmes barbares de la colonisation, les femmes blanches sont là pour protéger ce système-là. Parce qu'ils reçoivent le pouvoir de leur mari. Alors, s'ils contredisent ça, ils vont perdre leur place pas mal vite. Tu sais, si on regarde les romans de Jane Austen, là, le rôle de la femme, c'est de se trouver une bonne partie, un bon époux, parce que c'est la seule façon qu'elle peut maintenir sa place dans l'hierarchie de cette société-là. Alors, pour longtemps, hein, la seule carrière d'une femme, ça serait de marier un bonhomme. Puis la seule façon qu'on peut garder ça, c'est en s'assurant de garder satisfait puis d'en perpétuer ce que ces hommes-là enseignent.
Puis ça voulait dire de repousser encore les femmes autochtones.
Ah, c'est ça, repousser les femmes autochtones aux États-Unis, repousser les femmes afro-américaines et de les mettre à leur place. Parce que vraiment, c'est ça la colonisation, c'est qu'on sépare les gens pour qu'ils sachent c'est quoi leur place. Tandis que si on regarde sur une perspective autochtone, tu fais ta place. Tu sais, je veux dire, tu vas faire ta place avec ton don. Et tout le monde devrait avoir le droit d'exprimer ce don-là.
Alors, parle-nous du livre que tu as apporté aujourd'hui.
Le livre s'appelle « White Benevolence, Racism and Colonial Violence in the Helping Professions ». Il n'a pas été traduit encore. Ça a été édité par deux académiciennes assez reconnues dans l'éducation autochtone, Sheila McLean, qui n'est pas autochtone en passant, mais qui est une des personnes fondatrices de Idle No More, et aussi Verna Saint-Denis, qui, elle, est une académicienne qui met de l'avant l'importance de décoloniser le système d'éducation publique. Alors, on parle vraiment de tous les domaines, ce qu'on appelle les professions aidantes, infirmières, système public, enseignants, parce que la plupart des personnes qui œuvrent dans ces domaines-là, ce sont des femmes. Eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est très... Mais surtout, il y a un chapitre qui est dédié au système d'éducation publique. Puis ce qu'ils disent, c'est que le système public a été créé pour véhiculer, puis a été construit sur les valeurs colonisatrices. Et que, veut pas, implicitement ou explicitement, on continue à véhiculer ces valeurs-là. Puis l'une de ces valeurs-là, c'est que les hommes sont supérieurs aux femmes, que le patriarcat, que le capitalisme, c'est le seul système économique qui fonctionne. Et le normal dans la société, c'est d'être blanc, la race blanche. Ça, c'est le normal. Toute autre chose est abnormale. Alors, on a normalisé ces valeurs-là, puis si on veut vraiment sauver le système d'éducation, puis par conséquent, je pense, sauver notre société d'une fin terrible, dans une apocalypse environnementale, ça serait de défaire ces mythes-là et de vraiment regarder tous nos curriculums, notre pédagogie, nos pratiques dans les salles de classe, puis de vraiment de regarder quelle sorte de dommage, parce que ces valeurs-là endommagent plusieurs de nos enfants, parce qu'ils les endoctrinent avec des mythes. Et si on veut défaire ces mythes-là, il va falloir qu'on change la façon qu'on enseigne, la façon qu'on gère nos élèves, la façon, puis même gérer, tu sais, j'utilise un langage capitaliste, on gère des animaux, mais c'est pas ça que je voulais dire, mais qu'on encadre nos enfants dans les écoles, puis aussi la façon qu'on construit nos curriculums. Il va falloir tout revoir ça, parce que ces valeurs-là vont peut-être apporter notre fin éventuelle. Alors, il faut remettre, premièrement, il faut changer ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer... faut qu'on arrête de omettre les perspectives autochtones, entre autres. Cette idée que les femmes sont... Il devrait avoir l'équité entre les hommes et les femmes. Cette idée que les enfants, on doit vraiment inculquer que les enfants, ou de faire de vraiment vivre le fait que les enfants sont au cœur de tout ce qu'on fait. On le dit souvent, mais nos actions sont souvent contraires à ça. Va falloir avoir plus d'équité entre les femmes et les hommes dans le public, alors s'assurer que, tu sais, qu'on ait plus d'hommes qui enseignent, à l'élémentaire surtout, mais qu'il y ait plus de femmes dans des positions de leadership. Mais aussi que, puis ça va être peut-être un petit peu controversé, une des personnes qui véhiculent ou qui protègent le plus ces valeurs-là, ce sont les femmes blanches. Alors, toutes les femmes blanches doivent se regarder dans le miroir puis s'informer sur les mythes qui véhiculent dans ces écoles-là, puis changer la façon qu'on... Parce que vraiment, c'est eux qui vont pousser le changement, parce que encore aujourd'hui, la majorité des enseignants, ce sont des enseignantes à l'élémentaire. Alors, si on veut du changement, il va falloir que les femmes blanches embarquent dans ce trajet de décolonisation. Alors, c'est un peu ça. Tu sais, on devrait arrêter de résister au changement, puis vraiment, parce que vraiment, c'est l'avenir qui est en jeu. Alors, vraiment, c'est ça.
C'est plus grand que nous.
C'est beaucoup plus grand que nous, puis il faut vraiment, tu sais, je pense, si on veut vraiment avoir un système public d'éducation qui fonctionne, il faut constamment se questionner, constamment changer. On ne peut plus faire les mêmes photocopies pour 20 ans. dans quel autre domaine est-ce qu'on permet de faire la même chose? On peut plus s'attendre que les enfants qui nous donnent des troubles, qu'on les jette en dehors de notre classe. On peut plus avoir des systèmes de gestion de classe qui punit. On peut plus enseigner et négliger la métacognition où ce que l'important c'est de penser et non de juste régurgiter. Alors, c'est un peu ça. Cette technique-là, c'est un outil de la colonisation. Enseigner de cette façon-là. Puis on fait beaucoup de dommages à tous les enfants, pas juste les enfants autochtones. Puis ça qu'ils disent, si on change notre façon d'enseigner, si on revoit notre pratique, si on revoit notre façon d'entrer en relation avec les enfants, si on change ces choses-là, il y a une possibilité de pouvoir améliorer la société. Mais si on continue avec same old, là, ça va pas fonctionner. Surtout pour les enfants les plus vulnérables.
Et merci d'être venu.
Plaisir. Moi, je veux conclure. Ça, je sais que je suis un homme, puis encore, je veux pas prendre trop de place, puis je veux pas que ça sonne comme je mansplain, là. Mais je suis convaincu que, tu sais, si on travaillerait pour plus d'équité, je pense qu'on aurait un meilleur monde.
Je suis d'accord. Ouais.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juel Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de balado préféré ou visitez webwest.ca. Je vous invite également à évaluer le balado sur iTunes.
Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus!